Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. 2,5 millions de personnes supplémentaires éligibles au vaccin AstraZeneca qui ne sera plus réservé aux moins de 65 ans. Et les pharmaciens pourront administrer tous les vaccins, les autorités accélèrent la campagne. Condamnation de Nicolas Sarkozy pour corruption, Marine Le Pen critique, elle ne veut pas que les juges fassent la primaire de la présidentielle, nous l'entendrons et nous verrons comment expliquer une sentence aussi sévère. La réforme de l'assurance chômage entrera partiellement en vigueur au 1er juillet, c'est ce que vient d'annoncer la ministre Elisabeth Borne aux syndicats, tous en colère, en désaccord contre le nouveau mode de calcul. Une première plainte déposée devant la justice française visant les attaques chimiques du régime syrien. Plainte pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et puis Serge Gainsbourg, 30e anniversaire de sa disparition, journée hommage sur Europe 1. Invité d'Europe Midi, l'un de ses biographes, Bertrand Dical, auteur d'un tout Gainsbourg, qui s'interroge notamment sur l'insuccès ou l'indifférence que l'artiste a longtemps connu de son vivant.
Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors.
30 ans après sa disparition, Gainsbourg Forever sur Europe 1.
Patrick Cohen.
Dernière nouvelle de la vaccination avec une série d'informations et d'annonces qui devraient accélérer la campagne. C'est en tout cas le pari des autorités. Victor Delande, c'est d'abord ce matin la Haute Autorité de Santé qui veut étendre le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Avec comorbidité.
Oui, il n'y a plus de trou dans la raquette. Fini la catégorie d'âge 65-74 ans en attente de leur injection. Après l'annonce d'Olivier Véran hier soir, la Haute Autorité de Santé a effectivement recommandé ce matin d'étendre l'autorisation du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Cet élargissement est motivé par de nouvelles données venant d'une étude menée en Écosse avec des pourcentages d'efficacité extrêmement encourageants de ce sérum pour éviter notamment l'hospitalisation chez les sujets plus âgés. Mais dans un premier temps, ce sont donc les personnes de 65 à 74 ans avec des facteurs de risque, comme les personnes obèses, les insuffisants respiratoires, les diabétiques qui seront prioritaires. La présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, a justifié ce matin cette décision.
L'enjeu aujourd'hui, il reste d'accélérer la vaccination, de faire le plus vite possible et en ciblant toujours en priorité les personnes qui ont des facteurs de risque de faire des formes graves. Parce que les buts à court terme restent les mêmes. Diminuer la mortalité et la pression sur le système de santé.
Autre recommandation annoncée par la Haute Autorité de Santé, tous les vaccins contre le Covid-19 doivent pouvoir être administrés désormais par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins. Il faut maintenant attendre un décret pour que ces professions puissent concrètement vacciner dans leur officine. Mais le but de cet avis est très clair, plus de soignants pour piquer afin d'accélérer la campagne de vaccination. Je rappelle qu'à ce jour, près de 3 millions de Français ont reçu une injection et la moitié d'entre eux a pu bénéficier des deux doses. Et selon les projections du gouvernement, avec ces nouvelles données, 6 millions de Français auront reçu au moins une dose à la fin du mois de mars.
Victor Delande, politique et justice avec l'onde de choc Sarkozy, l'ancien président condamné à 1 an de prison ferme pour corruption. Il n'y a pas que des LR pour dénoncer une justice dévoyée ou détournée à des fins politiques. Il y a aussi Marine Le Pen, qui est par ailleurs mise en examen pour des emplois présumés fictifs au Parlement européen. La présidente du Rassemblement national qui souhaite la suppression du parquet financier. Invité d'Europe 1 ce matin.
On voit bien que dans un certain nombre d'affaires, les miennes, j'en suis témoin, celle de M. Fillon, la justice ne s'est pas comportée de la même manière avec les candidats qu'avec n'importe quel quidam. Et a cherché, clairement, à influer directement sur l'élection. Or, moi, je suis désolé de vous dire que je ne souhaite pas que les magistrats fassent la primaire de la présidentielle.
Mais alors, comment
je
y remédier ?
Je n'ai pas envie que les magistrats déterminent qui seront mes adversaires
alors,
à la présidentielle.
Remédier ?
Et je vais même plus loin, je vais vous dire. Je pense que Nicolas Sarkozy, compte tenu de la jurisprudence Fillon, si Nicolas Sarkozy souhaite être candidat à la présidentielle, eh bien, il doit l'être. Malgré la condamnation, dont je rappelle qu'elle n'est pas définitive, le peuple est souverain. C'est lui qui décide. Ce ne sont pas les magistrats. Sinon, c'est le gouvernement des juges.
Marine Le Pen avec Sonia Mabrouk. Sur le fond, les défenseurs et les soutiens politiques de Nicolas Sarkozy continuent d'affirmer qu'il a été condamné sur la base d'un dossier vide, que le prétendu pacte de corruption n'a eu aucun effet, ni sur la justice, ni sur le haut magistrat qui devait l'influer, et que le tribunal se fonde, je cite, sur un faisceau d'indices graves et concordants. Guillaume Bié, comment ce dossier-là a pu justifier une condamnation et une sentence aussi sévère.
Déjà, dire que le dossier est vide, un désert de preuves, avait plaidé l'avocate de Nicolas Sarkozy, c'est le point de vue de la défense, ce n'est pas celui des magistrats qui s'appuient principalement sur ces fameuses écoutes, le cœur du dossier. Des conversations nombreuses qui ne violent pas le secret des échanges entre avocats et clients, ces écoutes sont valides et surtout ces conversations caractérisent le délit, estiment les juges, avec un point précis qu'il faut bien comprendre. Peu importe si Gilbert Azibert n'a pas influé sur la décision de la Cour de cassation et peu importe s'il n'y a pas eu de contrepartie, si Nicolas Sarkozy n'a finalement pas plaidé sa cause pour un poste à Monaco, le code pénal et le jugement d'hier sont clairs. Le simple fait d'avoir proposé une contrepartie, ce fameux coup de pouce reconnu à l'audience par Nicolas Sarkozy, ça, c'est déjà un délit. En résumé, les juges parlent effectivement d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui prouvent, selon eux, l'existence d'un pacte de corruption qualifié de particulièrement grave en raison de la profession, de l'expérience des prévenus. Ils avaient parfaitement conscience du caractère frauduleux de ces agissements, écrivent les magistrats. D'où ces condamnations fermes. La peine maximale, c'est 10 ans. Le PNF avait requis 4 ans, dont 2 fermes. Le tribunal a prononcé 3 ans, dont 1 ferme. Bien évidemment, toutes ces condamnations sont annulées puisque les prévenus font appel. Il y aura un nouveau procès.
Guillaume Bier, merci. Pour les abus sexuels dans l'Église, le président de la commission indépendante, l'ancien dirigeant du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, présentait ce matin un point d'étape qui est allé bien au-delà des scandales étouffés par la hiérarchie catholique à propos de la pédocriminalité. En général, dans la société, le haut fonctionnaire a parlé de crime de masse, Virginie Riva.
Oui, crime de masse, atteinte à l'humanité, des mots très forts que Jean-Marc Sauvé emploie pour qualifier l'ensemble des abus sexuels sur mineurs commis dans la société, c'est-à-dire à l'école, dans la famille notamment, car pour comprendre la responsabilité de l'Église, il a besoin, dit-il, de comprendre la prévalence d'abus au sein de la société tout entière. C'est d'ailleurs une enquête en cours qu'il a commandée à l'INSERM. À ce stade, 3000 personnes ont témoigné à la commission. Il y en a sans doute beaucoup plus, 10 000 victimes peut-être, puisque beaucoup sont aujourd'hui décédées, d'autres ne souhaitent pas s'exprimer. La majorité des crimes commis par les clercs et religieux remontent d'ailleurs aux années 50 et 60. On en a appris plus ce matin sur les lieux de ces crimes. La majorité se sont produits en établissements scolaires, puis au catéchisme, un quart en mouvement de jeunesse ou colonie de vacances. Quelques abus ont aussi été commis au domicile même des victimes âgées, dans la plus grande majorité des cas, de 6 à 15 ans. Jean-Marc Sauvé qui laisse surtout très clairement entendre la responsabilité collective de l'institution au-delà des agissements individuels de prêtres et de religieux sur les silences et les déplacements. Responsabilité qui ne pourra se résoudre, a-t-il dit, à verser une simple indemnité financière. Il rendra ses préconisations fin septembre, préconisations qui seront co-construites avec les victimes, a-t-il précisé.
Et Virginie Riva, merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, le nouveau mode de calcul de l'assurance chômage va bel et bien entrer en vigueur dès le 1er juillet.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La pandémie a retardé 2 fois son application, mais la réforme de l'assurance chômage sera bien mise en œuvre. C'est la volonté du gouvernement, rappelée ce matin par la ministre Elisabeth Borne à des partenaires sociaux tous hostiles à ces changements, Olivier Samin.
Oui, la réforme entrera bien en vigueur le 1er juillet. En tout cas, sa mesure phare, celle qui modifie le calcul du montant des allocations. Mesure très critiquée, puisqu'elle aboutit à une baisse de l'indemnisation mensuelle des personnes qui alternent des contrats courts avec des périodes de chômage. Cette mesure sera donc bien mise en œuvre dès juillet, mais avec un plancher pour éviter des baisses trop fortes d'indemnisation. 2 autres mesures qui étaient prévues dans la version d'origine de la réforme seront conditionnées à un retour à meilleure fortune, en clair, à une amélioration du marché du travail, soit, au plus tôt, le 1er octobre prochain. D'abord, l'augmentation du nombre de mois qu'il faut avoir travaillé avant la perte de son emploi pour pouvoir être indemnisé. Et puis, 2e mesure, la dégressivité des allocations pour les gros salaires. Enfin, s'agissant du bonus-malus frappant les entreprises qui ont fortement recours aux contrats courts, il sera effectif à compter de l'été 2022 dans des secteurs bien définis, et ça après 1 année d'observation des pratiques dans les secteurs en question.
Olivier Samin, aux Assises de Paris, début du procès en appel des agresseurs de policiers de Viry-Châtillon. C'était en 2016, une voiture de police incendiée par des jets de cocktails Molotov. 4 blessés, des policiers qui avaient échappé aux flammes à la mort. En première instance, 5 des 13 accusés avaient été relaxés. Les autres condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison pour tentative de meurtre en deçà des réquisitions, d'où l'appel du parquet général. Ce deuxième procès qui se déroule à huis clos, parce qu'une partie des accusés sont mineurs. Ce deuxième procès, l'une des victimes, Jenny, une policière brûlée aux mains et au visage, le vit comme une deuxième épreuve, son avocat maître Thibaut de Montbrial.
On a eu vraiment une photo lors du procès en première instance de ce que c'est que le poids du silence, l'omerta, la force des bandes, la pesanteur de la violence au quotidien dans les quartiers. Le temps a passé et peut-être qu'entre les accusés, il peut y avoir des rapports qui fissurent cette omerta. L'attente impossible, c'est de savoir pourquoi des jeunes, dont certains étaient mineurs, ont été brûlés des policiers dans une voiture, les ont bloqués alors qu'ils étaient en train de brûler à l'intérieur, les ont ensuite rebrûlés, puisqu'il y a un policier qui a pris un cocktail Molotov alors qu'il brûlait déjà et qu'il sortait de la voiture, ensuite les ont caillassés. Qu'est-ce qui peut justifier que des jeunes d'un quartier viennent s'en prendre ainsi aux policiers? Voilà, ce sont des questions obsédantes au quotidien.
Propos recueillis par Marion Dubreuil. L'horreur syrienne devant la justice française, c'est une première. Une plainte vient d'être déposée au tribunal de grande instance de Paris pour crime contre l'humanité et crime de guerre pour l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Nicolas Feldman.
Oui, et tout le monde se souvient de ces images. Des hommes, des femmes, des enfants suffoquants. Nous sommes à l'été 2013 dans la banlieue de Damas et le régime syrien est accusé de bombardement au gaz sarin contre sa population, des attaques qu'il a toujours niées. Mais aujourd'hui, si une plainte peut être déposée en France, c'est parce que des activistes présentent des preuves solides à la justice. Parmi eux, Mazen Darwish, il est avocat et c'est le directeur du Centre syrien des médias et de la liberté d'expression.
Parmi les éléments qu'on a fournis au juge, il y a beaucoup de photos et de vidéos. Là, par exemple, sur cette vidéo, vous avez des cadavres de femmes et d'enfants. Et on voit clairement les effets des agents chimiques sur les parties respiratoires, le nez, la bouche. Nous avons aussi collecté des témoignages de victimes, reconstitué la chaîne de commandement pour identifier les responsables de ces attaques.
Alors impossible pour ces activistes de juger les coupables en Syrie. C'est donc pour cela qu'ils se tournent aujourd'hui vers la justice française, compétente pour enquêter dans des cas très précis sur des crimes commis à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la compétence extraterritoriale. C'est selon ce principe qu'a pu aussi être déposée une plainte similaire en Allemagne à l'automne dernier.
Merci à vous Nicolas Feldman. C'est normalement le temps de la météo, mais Anissa Haddadi reste injoignable pour l'instant. Elle me charge de vous dire que le ciel est légèrement plus néageux à l'ouest. Il est plus légèrement néageux à l'ouest. Anissa, vous êtes là?
Mais oui, je suis là, Patrick.
Et donc?
Oui. Depuis ce matin, nous avons une légère dépression qui touche la pointe bretonne avec un ciel plus nuageux, avec quelques petites gouttes sur le Finistère en fin de journée. Et puis après la dissipation des brouillards sur la moitié nord, eh bien c'est le soleil qui s'impose partout. Bonne nouvelle cet après-midi, sauf sur le Languedoc, où nous avons toujours ce vent marin qui souffle jusqu'à 90 km/h et qui apporte pas mal de nuages. Les températures, elles sont douces cet après-midi avec 12 degrés à Cherbourg, 15 à Brest et Belfort, 17 à Paris, 18 degrés à Marseille et 19 la maximale pour Clermont-Ferrand.
Merci à vous Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, Gainsbourg ou le mystère Gainsbourg, érigé en génie après sa mort, méprisé ou victime d'un succès pendant longtemps de son vivant comme artiste sous son nom. Nous l'explorons ce mystère avec les archives d'Europe 1 et avec Bertrand Dical, l'un des biographes de Gainsbourg qui publie un tout Gainsbourg chez Grund.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
C'était le week-end de la fin de la guerre du Golfe, 2 mars 91, un samedi soir, il y a 30 ans, Gainsbourg se barre.
Serge Gainsbourg est mort seul, il n'a pas voulu ou bien il n'a pas eu le temps de demander de l'aide.
Ok, KO. Le cœur pompe à malheur, goutte à goutte, se vide. Cancer, arrêt cardiaque me laisse un pas vide. Dormir une chance de rêve, trop c'est trop.
Il était aux alentours de minuit moins le quart, quand avec Bambou et Charlotte, ils ont découvert le corps de Serge Gainsbourg. Des barrières ont été posées par la police à chaque extrémité de la rue, des badauds, des passants émus se sont approchés. Louis de Verneuil, Europe 1.
Tu t'appelles comment?
Lucien.
Lucien comment?
Lucien Ginsburg.
Extrait du documentaire Tout sonneur composé par Julien Tarot à partir des riches archives d'Europe 1 et qu'Émilie Mazoyer vous présentera ce soir à partir de 20h au soir de cette journée hommage. Bonjour Bertrand Dical.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un Tout Gainsbourg, une somme de 1000 pages qui paraît chez Grunt, qu'on peut picorer comme un dictionnaire ou une encyclopédie, qui est la biographie d'une œuvre, chanson, film, écrit et qui interroge en permanence sur la fascination exercée aujourd'hui par Gainsbourg, qui n'a d'égal que l'indifférence et l'insuccès qu'il a subi pendant 20 ans. Vous le rappelez en ouverture de votre livre, ce qui paraît fou aux plus jeunes, ou même aux moins jeunes, entre deux âges, Gainsbourg n'est devenu un génie qu'après sa mort.
Oui, c'est ça qui est étonnant. Alors, effectivement, il y a une archive radio de la radio publique dans laquelle, en annonçant la mort de Gainsbourg, on dit musicien de génie. Mais en fait, j'étais allé vérifier les nécros qui sont parus dans la presse quotidienne. On n'emploie pas le mot de génie.
Non.
On dit, des fans disent que c'est un génie, ils le considèrent comme un génie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tous les journalistes, même, je dirais surtout les journalistes un peu paresseux, vont dire Gainsbourg, un génie,
ouais.
Le génie.
Décès, Le Figaro écrit dans un édito, c'était votre journal, Bertrand Dical, Serge Gainsbourg était déjà mort et il l'ignorait, il se survivait en jouant un personnage qui avait été à la mode. J'ouvre Le Figaro aujourd'hui, une double page titrée « Serge Gainsbourg, toujours vivant ». Vous voyez l'évolution.
Mais c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que quand Gainsbourg meurt, c'est quand même Gainsbourg. Faut pas oublier que c'est une star. Une star.
Une star de la provocation.
Oui, une star de la provocation, mais c'est aussi une vraie star. On l'entend tous les jours à la radio. Son dernier album, You're Under Arrest, est quand même, même si les fans d'aujourd'hui pincent le nez en l'entendant, c'est quand même l'album le plus vendu de la carrière de Gainsbourg à sa mort. C'est You're Under Arrest, l'album que plus personne n'écoute aujourd'hui. Donc, il est ce personnage provocateur, scandaleux, et qui continue à jouer de cette image. Il est toujours présent dans des pubs, il est toujours présent dans... déjà, on recycle dans les émissions, on recycle ses plus belles provocations, qui ont déjà quelques années pour certaines. Donc, il est quelqu'un qui en 1991, continue vraiment à exaspérer les conservateurs.
Absolument. Mais le numéro de Libération du lundi 4 mars 91, lui, s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Alors, vous racontez, il y a eu des altercations devant les kiosques. On s'arrachait ces journaux. Ces pages hommages ont été plusieurs fois réimprimées. Mais la renommée de Gainsbourg va continuer à croître tout au long de la décennie, au fil des redécouvertes de ses chansons passées. C'est ça. Alors, qui est extraordinaire après sa mort.
Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de masse qui est le phénomène du public de Gainsbourg. Grosso modo, quand Gainsbourg meurt et que vous avez 18 ans, vous aimez bien le Gainsbourg un peu punk, le type qui ouvre sa braguette sur les plateaux de télé, etc. Et puis, vous grandissez. Alors, vous arrêtez d'écouter des 45 tours de punk, vous arrêtez d'écouter du hip-hop américain, et puis vous vous mettez à écouter de la grande chanson française. Eh ben, vous continuez à écouter Gainsbourg. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui est la génération de ces adolescents qui idolâtraient Gainsbourg, qui sont mis vraiment à aimer Gainsbourg, qui sont mis à aimer L.A.E. dans la T.I.E.T.I.A., la Javanaise, le premier album, le deuxième album, Gainsbourg confidentiel, enfin tout ce Gainsbourg classique. Et puis il y a les professionnels. Et les professionnels ont eux aussi tourné la page top 50, et ont réalisé à quel point, quand ils écoutaient un album de Gainsbourg, ils entendaient une leçon de musique.
Absolument. Et donc, le vrai mystère, c'est pourquoi ça n'a pas marché dans les années 60. Pourquoi la Javanaise, aujourd'hui considérée comme un monument, est restée une face B, par exemple.
Une face B ignorée. Il y a des années, j'avais pour le coup passé vraiment trois longues journées. J'étais en congé sabbatique, j'écrivais une biographie de Juliette Gréco. Et j'avais passé trois longues journées à la Bibliothèque Nationale à regarder dans toutes les collections des quotidiens et des hebdos, mais pas uniquement à la parution du 45 tours de Gainsbourg et du 45 tours de Gréco avec la Javanaise, mais sur trois mois, quatre mois à regarder. Et j'avais trouvé rien. C'était ça qui était extraordinaire, c'est que il y a personne qui dit que la Javanaise est une mauvaise chanson, personne ne l'entend. Il y a même une critique dans un hebdomadaire où on parle des trois autres chansons du 45 tours de Gainsbourg. On parle des trois autres chansons dont un violon, un jambon, dont on ne dira pas que c'est une grande chanson de Gainsbourg.
C'est oubliable, on
voilà,
va dire.
Qui est tout à fait oubliable, et on s'en souvient pour ça. Mais on ne parle pas de la javanaise. Mais il est arrivé la même chose, ne vous déplaise, à toute l'œuvre de Rimbaud, ouais, à toute l'œuvre de Van Gogh, et aux Feuilles mortes. Les Feuilles mortes, ça a commencé par être un bide pendant plusieurs années, jusqu'à ce que, soudain, au bout de 3-4 ans, la chanson devienne un standard.
Avec, chez Gainsbourg, un univers, des obsessions, des références personnelles omniprésentes que votre tout Gainsbourg permet d'explorer. Exemple.
L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
Alors c'est une chanson brillamment écrite et composée avec le duo Baxic et Gaudry derrière. C'est vraiment, ça sonne formidablement bien encore aujourd'hui, mais c'est aussi, comme beaucoup de chansons de Gainsbourg, parfaitement autobiographique.
C'est un recyclage, parce que quand Gainsbourg enregistre Gainsbourg confidentiel en fin 63, début 64, c'est déjà une chanson qui a à peu près une dizaine d'années. C'est à l'époque où il vivait avec Lise, sa première épouse, qu'il a rencontrée quand il avait 19 ans.
Et elle été le premier à faire parler, au passage.
Et elle veut écrire des poèmes pour des revues. Donc elle se choisit un nom de plume, Laetitia Kerr. Et lui, comme elle veut écrire, il lui offre une machine à écrire de luxe, une Remington portative, ce qui est vraiment le nec plus ultra. Et on a tout. Et il tape le nom L-A-E dans la T-I-T-I-A. Et ça devient un rythme. Et ça devient une petite mélodie qui est une petite blague entre eux. Il lui chantonne là, dans la, t'y. Et ça devient, quelques années plus tard, cette chanson-là.
Histoire racontée dans votre livre. On pourrait gloser des heures aussi sur l'échec de Melody Nelson, là aussi considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre absolu qui ne s'est vendu qu'à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Ou juste avant, en même temps, à peu près, puisque c'est à peu près avec les mêmes musiciens, sur sa période de pop anglaise qui nous a laissé, par exemple, ceci.
On se fait des
line en Ford Mustang
et
bang.
On embrasse les platanes.
Mus
à gauche,
Kang
à droite et à gauche à droite.
On retrouve le goût de Gainsbourg pour les chœurs et les chœurs féminins qui ont souvent accompagné ces chansons, y compris dans la dernière période.
Les chœurs féminins qui sont au premier plan.
Oui.
Et c'est ça qui change complètement d'habitude. Les chœurs, d'habitude, ils sont derrière. Et là, on voit d'ailleurs, cet enregistrement a été filmé.
Oui.
Et on le voit côte à côte avec la choriste Madeleine May. Et on les voit côte à côte.
Absolument.
Au même micro. Et c'est ça qui est aussi fabuleux. C'est que Gainsbourg fait des choses qui sont parfois presque banales pour l'époque, mais il décentre un tout petit peu. C'est-à-dire avoir la voix de la choriste mixée à la même hauteur que lui, la choriste qui ne vient pas renforcer une syllabe qu'il dirait, non, elle vient dire à sa place une syllabe. Et en plus, il invente l'idée que ces syllabes seront des syllabes en anglais, donc il faut que la choriste ait bien l'accent anglais. Donc il y a toute une série de toutes petites choses, de tout petits décalages qui, à l'époque, apparaissent comme des bizarreries ou apparaissent comme des ratés.
Oui.
C'est-à-dire qu'on se dit, oula, il fait pas comme tout le monde, c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange, c'est un peu raté. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait aussi que c'est génial.
Et c'est une signature qu'on retrouve effectivement dans plein de chansons, dans Comic Strip et dans beaucoup d'autres. Votre tout Gainsbourg, Bertrand Dical, c'est la deuxième édition, elle est définitive ?
Non, elle n'est pas définitive, parce que la Gainsbourgologie fait toujours des progrès. On sait qu'il y a un certain nombre de témoins qui n'ont pas encore parlé, et je pense que quand certains autres témoins auront parlé, je ferai une nouvelle édition, évidemment.
Ah, très bien, vous nous direz. Merci beaucoup Bertrand Dical, et je vous invite à écouter le documentaire sonore qui sera diffusé ce soir à 20h chez Émilie Mazoyer. Il est déjà en ligne sur europe1.fr. C'est une somme aussi, et les Gainsbourgophiles vont y trouver des pépites inconnues.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Le 13h dans un instant, puis la France bouge. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.